cachet oriental. J'ai réduit totalement ce qui se
passe. Moi, j'ai essayé de le combattre au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes présidents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de partager avec nous ce moment du débat citoyen sur Radio Okapi, la fréquence de la paix. Le gouvernement sursoit les décrets portant création des nouvelles villes et nouvelles communes. Plusieurs observateurs estiment que cette décision est salutaire et facilitera la Commission électorale nationale indépendante CENI de respecter le calendrier global rendu public au mois de février dernier. Notre opinion pense plutôt que ces décrets devraient être maintenus au regard du démembrement et de la mise en place de nouvelles provinces. Qu'en pensez-vous? Nous ouvrons les débats. Vous pouvez nous rejoindre à l'adresse pa@radiocapi.net ou bien nous appeler au 081 890 6315 pour votre intervention en direct. Paul Badianyam assure la mise en onde de ce programme sous la réalisation de Julie Fezabongonda et Pierrot et la Mégie. Ce programme vous est coordonné et présenté par J.R. Nguembo sous la supervision de Léonard Moulamba. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net. Parole aux auditeurs, J.R. Nguembo.
Voilà, il faut noter que plusieurs nouvelles villes et communes devaient être créées en République démocratique du Congo. Les décrets créant ces nouvelles entités administratives ont été signés par l'ancien Premier ministre Adolphe Mobutu et concernent 10 provinces du pays, excepté Kinshasa. Chaque province compte au moins 3 villes et 10 communes nouvellement créées. À ce jour, donc, ces décrets, le gouvernement a décidé de soustraire ces décrets pour peut-être le relancer un peu plus tard, mais nous en saurons un peu plus par rapport à vos réactions et les réactions de certains acteurs politiques. Nous avons fait appel dans ce studio pour échanger d'une manière citoyenne avec nous l'honorable Martin Fayoulou qui est dans ce studio. Bonjour honorable.
Bonjour.
Vous êtes président de l'ECID, engagement pour la citoyenneté et le développement, et ainsi que coordonnateur des FAC, Force acquise au changement. Alors nous vous recevons dans ce studio. D'abord, quelle est la réaction que vous avez par rapport à cette décision du gouvernement congolais?
Mais la réaction, c'est qu'il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas d'État, il n'y a pas de respect de ce qu'on fait. Comment voulez-vous qu'on prenne un acte juridique et après qu'on dise qu'on rapporte les décrets? On parle de sursoir les décrets. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Un acte juridique, quand il est pris, il crée des droits. Il crée des droits vis-à-vis de tout le monde. Et cet acte est né. Il est né. Donc il y a un décret. Et ce décret devient opposable à tous. Surtout que ça a été publié au journal officiel. Le fait de l'avoir publié au journal officiel, ça devient opposable à tout le monde. Et personne ne peut suspendre ces effets juridiques. Mais je ne comprends absolument rien, parce que moi je ne suis pas juriste. Je crois que M. Bouchard, le ministre, vice-premier ministre chargé de l'Intérieur, est juriste. Je crois que M. Minako, président de l'Assemblée nationale, est juriste. Mais est-ce qu'on a retiré formellement ces décrets par l'autorité qui l'a pris, oui ou non? Est-ce que ces décrets ont été annulés par un juge compétent, oui ou non? Est-ce que ce décret a été abrogé par une autorité hiérarchique supérieure, oui ou non? Qu'on nous le dise. Donc, voilà.
On n'a pas abrogé, on n'a pas annulé, on a juste ceci, la question.
Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire?
On a dit au regard de la réalité, nous entrons dans une phase de démembrement. Il faut aller progressivement, il faut attendre. Peut-être on pourrait les relancer. On n'a pas dit qu'on a annulé.
Au regard de la réalité du Gondwana ou au regard de la réalité de la République démocratique du Congo?
La République démocratique du Congo qui est en phase de démembrement actuellement.
Mais oui, alors, donc ceci ne voit et il n'y a pas une procédure pour arrêter les effets d'un décret. Il n'y a pas une procédure légale. Alors c'est pour ça que j'ai dit que là, nous avons affaire à des gens qui cherchent un objectif. L'objectif, on le connaît. L'objectif, c'est que M. Kabila doit à tout prix demeurer au pouvoir. Et voilà. Pour ce faire, il faut trouver des subterfuges.
Voilà.
Alors, parmi des initiatives qui vont faire que, voilà, il y aura glissement.
Mais alors, analysons un peu cette initiative de pouvoir créer nouvellement des villes. Est-ce une bonne initiative?
Mais écoutez, ce n'est pas la question qu'on va poser aujourd'hui.
Oui, dans la décentralisation.
Nous posons la question, il y a un décret, oui ou non? Alors, ce qui a motivé cette décision, on pouvait discuter, épiloguer, on peut faire une émission sur ça. Donc, comme aujourd'hui, on peut faire une émission pour dire est-ce que le 26 provinces, c'est opportun aujourd'hui. Ok, on peut faire l'émission, mais je peux vous dire, la Constitution a dit 26 provinces. Mais je peux vous le dire aujourd'hui, la République démocratique du Congo n'est pas prête pour recevoir les 26 provinces, pour avoir des infrastructures. À Kingi, par exemple, chef lieu de la province du Kwango, et pour abriter toutes les institutions provinciales qui devaient s'y installer. Donc, ce n'est pas...
Est-ce qu'il n'y avait pas une réponse à tous les désiderata de l'opposition qui réclamait un report des élections locales? Je crois que cette façon, c'est quand même un signal pour dire que ce n'est pas possible d'organiser les élections locales actuellement.
Mais voilà, vous dites le contraire, c'est exactement ça. Comme ils savent qu'avec la présence des nouvelles villes et communes créées, ils ne pourront pas organiser les élections locales. Alors donc, il faut faire sauter les verrous. Donc, en mettant, donc, comme vous dites, ces décrets en veilleuse, et donc ça leur donne la possibilité d'organiser les élections locales. Mais ça, c'est un verrou qu'ils ont fait sauter. Mais il y a d'autres verrous, et surtout les verrous du fichier électoral. Je ne sais pas comment ils vont faire sauter les verrous du fichier électoral. Donc, vous comprenez, comme je dis, ils multiplient les initiatives que je peux qualifier de
magnifiques. Ça ne fait que réjouir plus d'un de ce report de la mise en œuvre ou de la mise en place de nouvelles villes. Parce que, bon, l'opposition qui a tout le temps réclamé le report des élections, je crois que cette fois-là, vous avez la réponse à votre
question. J'y ai, je ne sais pas si vous m'avez compris. L'opposition a dit ceci. La CENI a présenté un calendrier qu'elle a appelé global. Et nous avons dit que ce calendrier n'était pas consensuel et ce calendrier était très dangereux, chargé sur le plan opérationnel et sur le plan budgétaire. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Nous avons proposé un contre-calendrier que nous avons donc le 27 février dernier, en disant que les élections locales doivent être repoussées à plus tard, donc après 2016. C'est ce que nous avons dit. Et maintenant, pour faire les élections, normalement, il y a des préalables. Quels sont ces préalables? Le premier, c'est avoir un fichier électoral crédible. Et pour ce faire, il faut enrôler tous les électeurs, c'est-à-dire que tout citoyen congolais qui a l'âge de 18 ans et plus. Pourquoi? Parce que le fichier électoral 2005-2011 est corrompu. Ce fichier-là, ce n'est pas un fichier normal. La société qui a fourni des matériels, ZPS, pour construire des fichiers, n'était pas qualifiée. En circulation, vous avez plus de millions et des millions de cartes électorales, de fausses cartes électorales, et la CENI reconnaît. Dans ces fichiers, aujourd'hui, ce qu'on appelle le nouveau majeur, les gens qui ont eu 18 ans après 2011 ne sont pas repris. Dans ces fichiers, vous avez des morts. Ce n'est pas extirpé. Dans ces fichiers, vous avez des gens qui ont changé d'adresse. Elle habitait Kasumbalesa, aujourd'hui elle habite Kasangoulou. Qu'est-ce que vous faites? Dans ces fichiers, il y a des gens qui n'ont pas qualité. Il y a des enfants dans les fichiers. Il y a des militaires dans les fichiers. Ils ne remplissent pas les critères, repris par la loi. Donc, ces fichiers-là, il faut, le mettre de côté et procéder à une nouvelle opération d'enrôlement. Ça, c'est la première condition que nous avons donnée. Deuxième, il fallait maintenant arriver au calendrier. Avoir un calendrier consensuel. On se met d'accord. Et troisième, très simplement, quelle est l'institution qui va organiser les élections? Est-ce que cette institution est neutre? Est-ce qu'elle est indépendante? Et nous avons exigé que la CENI soit réellement indépendante et neutre. Voilà ce que nous avons fait. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on nous offre?
Mais on a l'impression, parce qu'avant de repasser de passer de l'autre côté des standards pour accueillir les auditeurs, on a l'impression de se retrouver sur un terrain où les violences s'accordent entre l'opposition et la CENI. Parce que la CENI réclame carrément qu'on puisse abroger ce décret. C'est pratiquement l'idée qui a été partagée par l'opposition par les passés.
Tout à fait, à ce niveau-là, parce que la CENI a compris que continuer à coudre un tissu noir avec des fils blancs, et finalement, c'est impossible, on ne pourra pas tenir. Ils en ont déjà trop fait, et aujourd'hui, ils doivent arrêter. C'est comme ça que la CENI a demandé au gouvernement de lui donner les moyens de progresser. Comment est-ce que la CENI pouvait progresser avec ces décrets? Donc, c'est comme ça. Alors, d'une façon brutale, comme nous sommes au Gondwana, voilà
ce qu'on fait. Histoire, République démocratique
non, non, Congo, mais dans ce cas-là, nous sommes au Congo, il faut respecter. Nous avons une constitution, pourquoi on ne respecte pas la constitution? Nous sommes en République démocratique du Congo, nous sommes à l'Assemblée nationale, pourquoi on ne respecte pas les règlements intérieur de l'Assemblée nationale.
Voilà, je crois que vous êtes nombreux à nous suivre partout à travers le pays et aussi à l'extérieur, à l'étranger. N'hésitez pas de composer les 081-890-6315 pour votre intervention en direct. Nous parlons de ce report, en tout cas, pour la mise en place de nouvelles provinces, telles que c'était par des nouvelles villes et aussi des nouvelles communes. Voilà, donc, Maître Brière, vous êtes à Kananga, Ernest Amatadi, gardez la ligne, on vous accorde la parole d'un moment à l'autre.
Parole aux auditeurs.
Voilà, Maître Adrien, vous êtes à Kananga, dans la province du Kasaï central, hein, je crois. Voilà, Maître Adrien, vous êtes avec nous, bonjour.
Oui, bonjour, Jean Ngembo, bonjour à tous les amis auditeurs.
Voilà, je crois que, sans faire de votre part, vous êtes au Kasaï central.
Exactement, je suis à Kananga, le chef-lieu du Kasaï central.
Voilà, vous avez la parole. Quel est votre point de vue? Parce qu'il y a certains observateurs qui estiment par rapport à la position du gouvernement que cette décision est très salutaire et facilitera la commission électorale nationale de respecter le calendrier global rendu public au mois de février. Alors, une autre opinion pense plutôt que ces décrets devaient être maintenus au regard du démembrement et de la mise en place des nouvelles provinces.
Merci beaucoup, JR, de la question que vous m'accordez. Je vais intervenir sur deux plans, donc sur le plan forme et puis sur le plan fond. Sur la forme, cette décision du gouvernement vraiment souffre, parce que je suis un juriste et un avocat. Je vous assure que une telle décision en droit ne se justifie pas. Soit c'est comme l'honorable Fayoul l'a dit, on pouvait demander à son auteur de retirer carrément, comme son auteur ne plus encore le faire, mais au nom de la continuité de l'administration publique, on pouvait demander à celui qui gère ses services de faire la même chose, ou soit il pouvait prendre une autre décision pour annuler donc celui-là. Bon, le fait pour dire qu'il y a une surséance, en cette matière, hier, on pouvait saisir le juge administratif, parce que la surséance, il n'y a que le juge seul qui peut la prononcer pour sursoir une décision en attendant. Donc, parce que lorsqu'on parle d'une surséance, c'est-à-dire qu'il y a une procédure qui est en cours. Donc, nous dire déjà comme ça, c'est vraiment une façon d'agir par les politiciens congolais. Deuxièmement, lorsque nous entrons maintenant au fond du dossier, je me demande, mais qui a dit que pour faciliter la tâche à la CENI, il faut donc sursoir les nouvelles villes et les nouvelles communes? Moi, je pense que c'est un faux problème, parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a une réalité qui est en cause. Et c'est là que je suis en train d'appeler maintenant au bon sens de la CENI. Parce que tout le monde a compris que les élections municipales, locales et urbaines, c'est une réalité et c'est une nécessité. Est-ce qu'il faut les organiser de la manière dont on veut organiser ça, ou bien il faut écouter aussi la voix de la raison? Tout le monde sait qu'il y avait un calendrier qui était publié au mois de février par la CENI. Mais au jour d'aujourd'hui, ce calendrier-là n'est pas respecté. Pourquoi ne pas d'abord enrôler les nouveaux majeurs qui ont 18 ans au jour d'aujourd'hui, qui représentent à eux seuls 7 millions d'habitants. Et c'est contradictoire avec la Constitution. Or, nous savons très bien que la Constitution, c'est la loi des lois. C'est la loi qui prime sur toutes les autres lois. Donc, la loi constitutionnelle ne peut pas aller à l'encontre de la Constitution. Lorsque la Constitution dit que quelqu'un qui a déjà 18 ans révolu a droit de voter, mais au nom de quel principe la CENI fait nous dire non, il faut aller aux élections municipales et locales,
oui,
et les autres
majeurs là qui après. Oui,
M. Bria. Au fond du dossier.
Oui,
permettez-moi.
Oui, M. Bria. Oui, vous allez poursuivre parce que là, je risque de perdre quand même la fidélité. D'aucuns se posent la question aujourd'hui. Est-ce que on peut avoir des provinces sans ville, sans commune, sans territoire, sans district? Voilà. Donc, en fait, c'est simple. Vous êtes juriste, hein. Parce que là, nous nous retrouvons dans un paradoxe ou encore dans une situation en contradiction. C'est vrai que d'une part, on accélère avec la mise en place des nouvelles provinces et de l'autre côté, on retire ou carrément on préfère ce soir de prononcer la souciance par rapport à l'installation des nouvelles villes et communes. Bon, finalement, les provinces vont fonctionner 100% sans villes, sans communes.
Merci beaucoup, JR, parce que vous m'avez relancé et vous avez même donc dévancé mon idée. Au fond, maintenant, je vais me poser la question de savoir, je prends ne fût-ce que l'exemple de nos deux provinces, parce que ici, nous évoluons déjà en deux provinces. La province du Kasaï occidental a été déjà enterrée. Nous avons la province du Kasaï central avec comme chef-lieu Kananga et la province du Kasaï avec comme chef-lieu Chikapa. Vous allez vous rendre compte que dans toutes les deux provinces, il n'y a aucune ville. Parce que l'ancienne province avait deux villes, la ville de Kananga et la ville de Chikapa. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, la province du Kasaï central va évoluer sans ville. La province du Kasaï va évoluer sans ville. J'ai dit que c'est vraiment paradoxal et contradictoire. Moi, je me dis que là où le gouvernement pouvait intervenir pour surseoir dans certaines matières, le gouvernement ne l'a pas fait. Mais au jour d'aujourd'hui, je me demande l'opportunité donc, voilà, de surseoir. Et pourtant, moi, je pense, comme la deuxième opinion, il était souhaitable qu'on puisse laisser ces nouvelles villes et ces nouvelles communes évoluer comme ça, c'est sans même le développement. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est comme qui dirait, le gouvernement congolais est en train de vouloir une chose et son contraire à la fois. Pourquoi
voilà
surseoir les
oui
villes et donc accepter les découpages.
Merci beaucoup, c'est paradoxal. Comme vous l'avez dit, vous rejoignez carrément le point de vue de certains observateurs qui ont également suscité les débats du jour. Maître Dier, merci. Ernest, vous êtes à Matadi. Bonjour, Ernest.
Bonjour, JR, et bonjour à l'honorable Fayou et aux auditeurs qui nous écoutent en fait.
Voilà, vous avez la parole, Hermès, pour Maître Adrien, c'est sur le plan forme et fond. En tout cas, cette décision pêche dans beaucoup de choses, carrément, parce que d'abord, sur le plan forme, il y a le juge qui devait prononcer cette surséance, et sur le plan fond, il y a certaines réalités à laquelle on devait quand même faire face. Les élections municipales locales est une nécessité, certes, mais il faudrait quand même voir aussi les réalités pour les organiser, raison pour laquelle Maître Adrien a rejoint la position de l'opposition et de certains observateurs qui estimaient qu'il faudrait renvoyer ces élections à plus tard. Donc, comme pour dire, les nouvelles villes et les nouvelles communes ne devaient pas, en tout cas, être mises en place donc, dans la précipitation. Ernest, vous avez quel point de vue?
Merci beaucoup. Je crois que la CENI ne joue pas un franchet. Parce qu'en 2006, les élections on devrait commencer les élections par les élections urbaines, municipales, locales, et on a construit la maison de la Fondation pour que le président de la République arrive, rencontre cette structure déjà bien implantée. Ce qui n'a pas été fait. Aujourd'hui, lorsque la CENI a publié son calendrier en disant qu'il y avait 27 contraintes, qu'il fallait débattre parmi ces 27 contraintes, il y avait cette réalité des nouvelles communes et nouvelles villes qu'il fallait faire face. Or, la CENI n'avait pas la vérité de dire aux Congolais que lorsqu'on a publié les résultats des élections, la fois passée sur, je crois, 180 travers ces circonscriptions électorales, on avait des difficultés pour le faire, et aujourd'hui, en multipliant les communes par rapport à ce degré de ministre, il s'est posé un vrai problème. Au niveau de la communauté internationale, on sait très bien que les élections locales n'intéressent pas vraiment la communauté internationale, ça c'est l'affaire interne. Elles se préoccupent des élections présidentielles et législatives. Donc, devant cette réalité, la CENI n'a pas mis la vérité aux gens, et pour aller, comme on a dit, faire sauter le verrou par rapport au langage du gouvernement, il fallait maintenant trier la situation dans l'embouteillage pour que cette situation nous arrive aujourd'hui. Or, dès que nous voyons cette réalité sur le terrain, on se dit, la CENI par rapport aux fichiers que nous avons aujourd'hui qui pose problème aussi, le ministère de l'Intérieur n'a pas fourni l'effort pour ne fisquer connaître par les cartes pour les citoyens de la population congolaise, parce qu'on a toujours renvoyé à plus tard ces opérations. Depuis quelle année, dans ce pays, le gouvernement ne sait pas réellement des Congolais. Ce qu'on dit, 75 millions d'habitants, 60 millions d'habitants, ce sont des estimations, mais on ne connaît pas la réalité. Donc, pour tenir tous ces éléments, il y a les contraintes financières, les contraintes d'ordre organisationnel, ce qui fait qu'aujourd'hui, le gouvernement se retrouve en difficulté et il fallait faire cavalier dans ce sens-là pour ne pas écouter les voix du Congo profond et de la raison, comme on le dit. C'est ce qui dit qu'aujourd'hui, qu'il y ait de nouvelles villes, qu'il y ait des provinces nouvellement créées, la situation est là présente et la CENI aura des réalités de difficultés.
Ernest, pour une petite précision, parce que nous avons tous suivi l'actualité par rapport à ces débats, c'est vrai, après Mouzitou ait quitté donc la primature, il y a le premier ministre intérimaire, Luke Agyalo, qui avait précisé en son temps que ces nouvelles entités ne modifieraient pas la cartographie des circonscriptions électorales pour ne répondre qu'à ses propos. Alors, donc, vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, même si on suçoit ces dossiers, ça ne va rien changer, parce que les territoires, le chef de territoire ne sera pas, ne va pas, en fait, ne gérera pas en commune.
Non, c'est-à-dire, dans la CENI, ce qu'on a demandé, qu'on puisse revenir à la cartographie de 2006. Mais, dans la confusion, c'est créé. Comment on crée comme le premier intervenant dit, comment on crée des communes, des provinces, sans villes, sans communes. Parce que ça, c'est dans l'embouteillage qu'on ne comprend pas.
On ne dit pas qu'on ne crée pas. On dit, on va surseoir, et puis on va reprendre ça après les élections.
On va surseoir, c'est bien. Mais c'est-à-dire qu'on donne le temps à la CENI de faire des élections par rapport à la réalité présente. Mais on se déclare qu'il y a des provinces qui n'ont pas de communes. Et qui vont venir à quel moment? L'année prochaine, on va commencer l'enrôlement des nouveaux majeurs pour aller aux élections présidentielles. À quel moment on viendra revenir sur cette question?
Merci beaucoup, Ernest. Beaucoup d'appréhension, beaucoup d'inquiétude et également des questionnements par rapport à ce débat citoyen. Franck, vous êtes à Vienne. Bonjour et merci de nous rejoindre.
Bonjour, monsieur le journaliste, bonjour à l'invité, bonjour aux amis qui se sont déjà prononcés.
Vous avez la parole, Franck.
Merci beaucoup, je vous prends de court. J'ai dit le cours là, je n'ai pas suivi l'introduction. Si c'est possible de me rappeler un peu le temps du départ.
Voilà, les temps peut-être vous continuer. Il faut continuer à suivre l'émission, comme ça on va revenir à vous. Maître Gaston, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, Gilbert.
Vous avez la parole, Maître Gaston.
Oui, JF, avant de parler, je veux parce que ça c'est comme si Mouzitou et ma tata ne s'entendent pas. Pourquoi est-ce que dans des photos des anciens ministres qui premier ministre qui sont dans son bureau là, on peut voir la photo de
Mouzitou,
il est aussi parti des
anciens ministres. Oui, Gaston, je crois que vous êtes un ancien. S'il vous plaît, Gaston, je crois que vous êtes un ancien. Parmi les auditeurs qui interviennent dans cette émission, vous connaissez bien l'esprit de cette émission. Ne nous engageons pas dans les jugements des valeurs ou encore les débats sur les individus. Focalisons-nous sur les analyses, les réflexions. En tout cas, comme nous le disons toujours, c'est un débat citoyen, un échange et partage citoyen. Restons dans la thématique. Ne citons pas les gens ou parlons peut-être par rapport au thème que nous vous proposons. Gaston.
Oui. Bon, disons qu'il y avait un décret qui avait créé de nouvelles entités. Il y a un autre décret qui en est celui-là. Je pense que c'est le gouvernement qui est en place qui est censé décider. Donc, ils ont dit qu'il fallait annuler ce décret-là par rapport aux besoins de l'air. Ce n'est pas vraiment un problème. Mais
il est aussi vrai que ces entités-là qui avaient les statuts, qu'on avait accompli les statuts des villes, normalement ne répondaient pas aux sujets des villes au sens moderne. Ça, c'est vraiment la chose qui devrait faire d'abord qu'on puisse annuler un tel décret. Mais si c'est par rapport aux échéances qui se pointent à l'horizon, je ne trouve pas un problème. Okay? Les élections seront organisées au niveau des entités décentralisées, mais aussi au niveau des provinces. Il suffit de répertorier ces entités-là comme des villes, comme des communes, et puis pour qu'on se les dise aussi, même des provinces qu'on veut créer là. Qu'on veut créer, normalement, ces entités-là ne répondent pas aux critères des chaises d'une province au sens moderne. Il faut toujours comprendre les choses comme nous les appliquons à notre manière de Congolais. Il faut comprendre les choses dans ce sens-là. Il faut aussi qu'on puisse le dire que, à mon avis, il suffit qu'on procède au découpage et on s'arrête là. On parle même plus des élections, parce que je l'avais aussi dit autrefois, je suis chargé de ça
pour rien. Oui, créer des procéder au découpage, vous l'avez dit, mais il ne faut pas oublier qu'en 2012, il y a des décrets qui ont portant statut des villes et de communes, pour la création donc des statuts des villes et des communes à travers les pays. Il faut, comme l'ont dit vos prédécesseurs, mes prédécesseurs, il faut commencer par abroger ces décrets et aussi à les annuler au lieu de surseoir les décrets et laisser libre cours continuer la province. Donc c'est autour de ça que nous faisons ces débats. 081-890. Pour votre intervention en direct.
Parole aux auditeurs.
Voilà, nous poursuivons. Merci encore de votre fidélité à Radio Okapi si vous nous rejoignez. Bienvenue dans cette émission Parole aux auditeurs, les cadres d'échange et partage citoyen. Avec vous, Martin Fayoulou, président de l'ECID, engagement pour la citoyenneté et le développement et coordonnateur des FAC, Force acquise de changement. Vous venez de suivre cette première série des auditeurs. Quelle est votre réaction? Parce que là, Maître Adrien nous a précisé, en tout cas sur le plan forme et fond, on sent que cette décision pêche dans beaucoup de choses.
Écoutez, Maître Adrien, un bon juriste, il a totalement raison. Il a parlé de forme, il a parlé de fond. Et il donne l'exemple, mais ça c'est frappant, que vous avez aujourd'hui des provinces, mais qui n'auront pas de villes, qui n'auront pas de communes. Et comment ces provinces? Et d'ailleurs, les derniers intervenants, Maître Gaston, complètent Maître Adrien. Quand il dit, ces villes-là, même les provinces n'obéissent pas aux critères modernes, aux critères pour une ville ou une province moderne. C'est pas possible. Je vais donner l'exemple de Kenge, je peux donner l'exemple Boende, c'est la chef-lieu d'une province, et demain, je ne sais pas. Vous savez, il faut remonter à l'histoire de ces pays. Faut pas avoir honte à ça. Quand les Belges créaient des provinces, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient du temps pour créer des provinces. Nous, récemment, nous avons l'expérience de la grande province de Kivu qu'on a séparée en trois. Aujourd'hui, ce qu'ils pouvaient faire, on pouvait se dire, écoutez, demain, nous allons nous atteler à cet exercice-là. Comme ils avaient pris, changé la constitution, ils ont dit, voilà, il y aura une loi de programmation. Il fallait faire une bonne loi de programmation et aller province par province. On pouvait prendre, par exemple, la province orientale. On dit, on va fonder la province orientale. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, les quatre, est-ce qu'il y a des infrastructures? Étudier chaque chef-lieu. Et pendant 4 ans, 5 ans, organiser, par exemple, le fête de l'indépendance nationale dans un des chefs-lieux. Et chaque année, et après, si on dit que on aura à Bunia, l'année 2017, la fête de l'indépendance, qu'est-ce qu'on fait? Et là, on construit, on met des infrastructures en place. Et 2017, on le fait. 2018, on continue ainsi de suite, 4 ans après, voilà, cette province orientale est démantelée. Il y a les infrastructures et on fait tout. Et après, on va à l'Équateur ou une autre province, le Katanga. Mais écoutez, ce qu'on est en train de faire ici, c'est pour des raisons purement politiques ou même pas politiques, politiciennes, des raisons d'intérêt égoïste de certains individus qu'on ne peut pas comprendre. Donc, vos auditeurs ont totalement raison. Mais je voulais dire à Maître Gaston que il y a un décret qui a créé les nouvelles villes, les nouvelles communes. Mais il n'y a pas de décret qui a révélé. Donc il faut qu'on soit d'accord à ce niveau. Mais je crois que c'est encore Maître Gaston qui a dit ce qui est fait là, c'est simplement pour passer en force. Donc avoir les élus locaux, et ces élus locaux, donc ça va donner l'occasion aux tenants du glissement ou aux tenants du changement de la Constitution.
Est-ce qu'on peut parler d'un acte inconstitutionnel à ce niveau?
Mais totalement. C'est inconstitutionnel. Nous allons saisir,
la Cour constitutionnelle.
C'est inconstitutionnel. Tout ce qui se fait maintenant est totalement inconstitutionnel. On ne peut pas comprendre que inconstitutionnel. Et revenons par exemple sur la session extraordinaire de l'Assemblée nationale le samedi dernier. Vous avez vu que la session extraordinaire est convoquée, une décision qui convoque. Et dans la décision, vous avez un ordre du jour précis, déterminé. Et dans cet ordre du jour, il y avait le point sur le projet de loi portant répartition des sièges aux élections locales. Et
il a été d'ailleurs renvoyé au niveau de la commission PAJ.
Le 13 juin, quand nous avons discuté, tout le monde a compris que ces textes-là, ces projets, étaient assis sur un document faux, sur un fichier électoral qui était faux. Donc, on a dit, on a renvoyé, tout le monde a compris. Bon, on a donné des instructions pour qu'il y ait les élections et, comment dire, la session extraordinaire. Mais comment est-ce que samedi, on a changé le point à l'ordre du jour? Maintenant, on parle de plénière, donc projet de loi portant adoption des annexes à la loi électorale. Est-ce que c'était ça? Et vous voyez qu'on viole la loi, on viole la Constitution impunément. Donc, je crois qu'il appartient aux Congolais aujourd'hui, parce qu'on ne peut plus continuer à se jouer des Congolais. Il appartient aux Congolais
d'être plus vigilants. Vous partagez l'avis de ces auditeurs qui pensent qu'une province ne peut pas fonctionner sans ville, sans commune.
Une province ne peut pas fonctionner sans commune, sans ville, sans quartier, sans ressources, sans moyen d'élever les taxes. Vous avez allé lever les taxes à Boindé comment? Parce que c'est comme ça. Vous voulez faire des fonctionnaires, des administratifs, des élus et tout ça, des gens qui émargent, des agents publics de l'État et qui ne produisent pas et qui après deviennent des mendiants et qui après ils sont là tous dans la corruption. Et c'est ça le problème. Parce que vous voulez, vous savez qu'ils sont corvéables et taillables à souhait, et comme les chiens de Pavlov, vous amenez l'argent et
les réflexes conditionnés.
Les réflexes conditionnés. Mais c'est ça qu'on est en train de faire ici. Nous sommes dans les réflexes conditionnés.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Martin Fayoulou. Il est temps de rouvrir le standard avec Franck qui est à Vienne, professeur Ignace Akolesi et Joseph à Kinshasa. Il est temps également de rappeler à tous les auditeurs qui viennent à peine de nous rejoindre de composer les 081-890-6315 pour votre intervention en direct.
Parole aux auditeurs.
Professeur Ignace, vous êtes à Kolozi et je crois que dans la province, de la province de Marigny, je crois. Là-bas, on va devoir s'habituer un peu parce que bon, finalement, il y a 26 provinces maintenant. Professeur Ignace, bonjour.
Bonjour hier, bonjour à l'invité, c'est bien dans le Lualaba. Je suis vraiment très préoccupé, même gêné, hein, quand on analyse les choses telles qu'elles sont en train de se dérouler. J'ai comme l'impression, la nette impression d'ailleurs, que nous avons un problème d'organisation de l'appareil de l'État. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Gérer, c'est se voir. Comment on peut se réveiller un matin on met sur pied certaines dispositions, on vote, on autorise ou on crée un décret qui donne implantation de nouvelles villes et un autre matin, on se réveille, on va abroger carrément, et là on dit, on a suspendu ou on a suspendu cela, sans toutefois donner de détails, dire ce que cela sera après les élections. Moi je pense que, gérer comme je le disais, on doit planifier les choses. On devait en amont ne pas avoir fait ça que de l'avoir fait et brutalement arrêter sans beaucoup de justification dessus. Est-ce qu'on ne revient pas à la case de départ quand on a dit que nous avions des problèmes d'argent pour organiser notre administration, organiser les élections, certaines élections bien entendu. Vous voyez ici, nous allons nous retrouver dans une situation où des villes, comme on l'a dit, qui ont existé dans les esprits de la population, les gens se sont réjouis, il y a eu même des messages de félicitations, et brusquement, cette histoire s'arrête. Je crois que c'est, en quelque sorte, se moquer de la population. Hein. J'ai toujours dit que dans ce pays, tant que ceux qui sont au pouvoir vont considérer les points de vue de l'opposition comme étant de la saleté qu'il faut jeter à la poubelle, et de l'autre côté, tant que l'opposition aussi n'a pas considéré ce que le pouvoir est en train de faire comme étant des faits à rejeter, on va se retrouver dans cette situation d'imbroglio. Aujourd'hui, c'est un chaos, il faut qu'on le reconnaisse. On ne sait pas avancer dans cet état des choses. Je pense qu'on devrait s'arrêter à un certain moment pour analyser et se parler en face. Et là encore, ça relève la problématique du dialogue. Je voudrais que nos politiciens s'arrêtent, se regardent en face pour se dire et se donner sous un consensus quelle sera la ligne à suivre ensemble alors pour qu'on puisse donner la bonne issue quant à la démarche qui est en train de se mener aujourd'hui. Voilà d'une manière succincte ce que je voudrais dire, c'est que nous avons de sérieux problèmes d'organisation, de planification. Il y a un désordre qu'on devrait remettre
Oui, professeur Ignace, vous avez suivi quand même cette émission Parole aux auditeurs avec Félix Tshisekedi, qui avait même souhaité que cette matière, la question sur les nouvelles provinces, les nouvelles villes, les nouvelles communes, ou encore la question relative aux fichiers électoraux, soit en fait des sujets clés pour être débattus au cours du dialogue. Alors, jusque-là, finalement, on ne sait pas quel est le contenu de ce dialogue, parce que vous venez de l'évoquer tout à l'heure. Vous pensez que le cadre idéal pour débattre de toute cette question, ça ne peut être que les dialogues. Mais est-ce que tout le monde partage ses points de vue? Parce que là, on voit les accords, les violences sont loin vraiment de s'accorder entre certains membres de l'opposition, entre eux-mêmes, et aussi un groupe de la majorité qui ne partage pas à 100% cette idée. Donc voilà, on va voir aussi le point de vue de notre invité tout à l'heure. Merci beaucoup, professeur Ignace, d'avoir appelé de Colézy, dans la province de Lualaba. Franck, vous êtes à Vienne. Bonjour, Franck. Je crois que cette fois-ci, vous avez déjà fait une idée sur les débats. Franck.
Oui, merci beaucoup. J'ai déjà fait une idée. Merci pour les interventions des uns et des autres. Je dirais ceci par rapport à tout ce que je viens de suivre. Le cas, parfois, ça peut se faire comprendre comme ennemi de l'histoire. Et l'histoire peut aussi paraître comme l'adversaire du pas et vice versa. Je crois qu'il y a quelques années, on avait déjà débattu sur ce sujet sur vos zones. Et il y avait un des intervenants qui disait que quand on gère un État, avant de prendre une décision, on doit d'abord raisonner, réunir tous les paramètres, les étudier avant de se prononcer pour savoir si ce qu'on est en train de prendre là comme décision serait bénéfique pour le bien de l'État dans l'ensemble. Mais ce que nous sommes en train de vivre ici, c'est un tâtonnement. Cet tâtonnement émane de deux facteurs. D'abord, il y a un manque de respect des textes légaux qui doivent régir la République dans son intégralité. Il y a des textes qu'on respecte, il y a des articles qu'on respecte, mais parfois on les respecte selon les affinités, selon les retombées, apportant autant de gains dans tel cartel politique ou ainsi de suite. Et le deuxième facteur, c'est le manque de volonté politique pour faire asseoir convenablement ce plan de démembrement. Monsieur le journaliste, il y a déjà le prof qui venait d'intervenir qui a dit « gouverner, c'est prévoir ». Quand on a des responsabilités au sommet de l'État,
c'est pas pour faire plaisir à ses membres de famille, c'est pas pour faire plaisir aux gens de son parti politique, mais on a des responsabilités par rapport aux citoyens de cet État. Et parfois, quand les citoyens disent que l'ensemble des citoyens disent que là, ça ne va pas, il faut parfois aussi avoir la possibilité citoyenne pour les écouter et se repositionner. Mais maintenant, quand on nous fait voir que cet article ou bien cette décision est à revoir, à qui donne-t-on raison? C'est l'histoire qui est en train de nous donner raison. C'est la voix du peuple qui est en train de remporter. Moi, je suis du Bandundu. On a demandé la province de Bandundu en trois provinces. Ce n'est pas pour critiquer ma province, mais dans des cités comme Kinongo, comme Kenge, les futurs gouverneurs iront rester où? Dans une cité comme Kinongo, ces gens-là, les députés, et puis on a déjà pensé les chiffres aux infrastructures.
Oui, pour votre information,
c'est pas seulement.
Oui, pour votre information, Franck, Bandundu compte, en tout cas dans l'esprit et la lettre du décret, 12 villes et 41 communes.
Oui, mais c'est le journaliste. Je suis de Bandundu. J'aime bien ma province. J'aime bien mon pays. Mais c'est pas seulement parce qu'on a dit que ça compte, que cela a déjà tout le niveau de infrastructures. On va dire, il y a 12 villes. Quelles sont les 12 villes? La province de Bandundu, à l'époque, avant le démembrement, n'avait que deux villes. La ville de Kikwit et la ville de Bandundu. Moi, j'ai grandi à Bandunduville. Je connais Kikwit. Je connais ma province. Donc, vous partez de Kinshasa jusqu'à Bikout, il y a la route asphaltée. Vous partez de Kinshasa jusqu'à Mangata, c'est asphalté. De Mangata jusqu'à Bandundu, la route, on sait dans quel état elle se trouve. Vous partez de Bandunduville jusqu'à Inongo, vous savez dans quel état ces députés-là doivent maintenant faire des gymnastiques pour atteindre Inongo. Hier, je suis sur vos ondes. Ils sont encore là, Bandundu, par manque d'argent, l'état de route. Moi, je crois que c'est pas pour se faire plaisir qu'on peut prendre une telle décision. Avant de prendre une telle décision, on devait s'asseoir, commencer à construire, à doter toutes ces cités des infrastructures répondant aux normes de réalité. Mais ce n'est pas seulement on se réveille un bon matin, on prend une décision, on fait de tel village une cité, on fait de telle cité une ville, ça ne se fait pas du ticotard comme ça. Voilà. Même dans les autres pays, donc ça ne va pas du ticotard. On commence par construire et c'est après seulement qu'on peut dire oui. La ville a maintenant atteint autant de nombre d'habitants, la ville a telle infrastructure, elle a une poste, elle a des banques, elle a des pharmacies, elle a des établissements sanitaires, il y a ceci, donc on peut élever cette cité.
Voilà, merci beaucoup.
Mais c'est le contraire, donc c'est comme si les gens veulent se partager des morceaux de terre. Bon, toi tu prends ton morceau, et là aussi tu deviens lui.
Merci beaucoup,
là aussi tu deviens gouverneur.
Merci pour...
Non, c'était pas comme ça.
Merci de votre contribution, Franck. Là, vous évoquez la difficulté de déplacement, de mobilité de certains députés provinciaux qui devaient rejoindre leur nouvelle province. C'est vrai, c'est passé sous nos ondes. Nous avons relevé les difficultés que traversent ces députés. L'argent mis à leur disposition, le sou, on ne pouvait pas leur permettre d'arriver jusque-là. Raison pour laquelle ils ont présenté leur ras-le-bol sous nos ondes. Merci beaucoup, Franck, d'avoir appelé. Joseph, vous êtes à Kinshasa. Bonjour, Joseph.
Bonjour.
Voilà, nous entamons le dernier quart d'heure de cette émission. Rapidement, quel est votre point de vue, Joseph?
Bon, moi, merci beaucoup pour l'antenne. Je dirais ceci en deux mots. Premièrement, le problème que nous avons ici, le découpage, c'est un faux problème. Moi, je dis comment. Le découpage n'est pas mauvais parce que s'il faudra comprendre le mot découpage, il faudra d'abord parler de la décentralisation. Le véritable problème, c'est la décentralisation. Je crois que je voulais peut-être demander à l'honorable Fayoulou, qui est député, il devrait lui poser le problème de la décentralisation. On peut découper, appeler une ville, je ne sais pas, comme créer au sein des villes. Mais si la décentralisation ne suit pas, il n'y aura pas de bon résultat. Je vous donne l'exemple. Observez ces derniers temps. Le chef de l'État est en train d'inaugurer les aéroports à Lubumbashi, à Kinshasa, etc. Vous observerez que c'est plus dans les chefs-lieux et dans les anciennes villes. S'il y avait la volonté politique de découper et de décentraliser, je crois qu'aujourd'hui, on devrait voir le chef de l'État en train d'inaugurer les maisons, les bureaux, les gouvernements des nouvelles provinces. Et vous verrez même au niveau de la volonté politique que dans chaque province, tous les anciens gouverneurs, personne n'avait osé penser au découpage. Parce que si aujourd'hui on pouvait ne plus construire 26 maisons, ça ne sera même pas de ça, ça sera moins de 26 dans le niveau des anciens chefs-lieux. disposition pour ceux moins des gouvernements, pour les stations locales. Mais dans aucune province, même le Katanga, on voit tellement le chef de l'État à l'aéroport des Loanos. Il va aller inaugurer la route qui va à Kasumbalesa, une route qui existe déjà. Mais entre les nouvelles provinces, en tout cas, je ne sais pas si réellement il y avait la volonté politique, on allait voir les chefs de l'État et les autres dans ces nouvelles provinces en
train d'inaugurer un nouveau bâtiment.
En tout bien des bureaux des gouverneurs, des petits gouverneurs. Donc ce n'est pas. Je crois que le problème, le découpage est bien, mais le problème, c'est la décentralisation. On doit donner demain le pouvoir à ces gens-là. Il y a des communes ici, on nous a dit qu'ils pensaient que c'était peut-être l'équivalent de Gabon. Mais comment expliquer que la superficie de Kimbassé est l'équivalent ou le nombre de gens qui sont là, c'est presque Gabon. Mais vous ne voulez pas que nos communes à nous ne puissent pas émerger. Le véritable problème, c'est de donner le pouvoir.
Voilà.
Couper, oui.
Mais la décentralisation, les transferts des compétences, ça c'est très bon.
Oui.
Merci beaucoup, Jolene.
C'est autre problème chez nous. Et aucun gouverneur, même pas le Katanga, qu'on nous a dit que c'était le modèle, personne, Moïse, n'a pas pensé à ces nouvelles provinces.
Colézi, par exemple, quand on trouve le
bâtiment. Quand vous allez à Kinshasa, on vous parle que c'est le mal gommé. Allez à Malouéka.
Mais voilà, en passant, j'y profite d'ailleurs pour dire quand même, parce que à l'époque, même en 2011, il y a les bourgmestres de la commune de Kinshasa qui avaient évoqué cet aspect des choses en construisant le même bâtiment en prévision, en vue, en tout cas, de conseil communal. Qui viendra, si vous allez dans la commune de Kinshasa, vous verrez, il y a un bâtiment sous fond propre de la commune. On a érigé un bâtiment qui pourrait accueillir, abriter, en fait, les conseils communaux. Donc là, c'est déjà le tout encouragé. Je crois que si on pouvait multiplier ces exemples partout à travers la ville de Kinshasa pour que la ville ne puisse pas dire, bon, on n'a pas été démembré, nous gardons, on reste dans notre sommeil. Il faut vraiment se réveiller. Merci beaucoup, Joseph, d'avoir appelé. Pierre, vous êtes à Kinshasa. Victor, en Badangungu, gardez la ligne. Nous revenons à vous, Martin. Ayoulou, rapidement, réaction pour ces deux réactions.
Ah, mais tu es d'accord avec eux. Je commence par Joseph. Il dit ce que j'ai commencé à dire ici, que ce que les Belges faisaient avant de créer une nouvelle province. Donc, le problème, c'est la décentralisation. Donner les moyens, les structures, les compétences. Déjà, l'article 175 de la Constitution n'est pas respecté. La part des recettes à caractère national allouée aux provinces. Est-ce qu'on donne? Est-ce que les provinces, quand eux, les gouverneurs, reçoivent leur part, est-ce qu'ils retrocèdent aux entités décentralisées? C'est ça le problème. Il faut ficeler d'abord la décentralisation, avoir la décentralisation, et puis demander aux gens d'appliquer. Donc, Joseph a totalement raison. Et même le professeur Ignace. Le professeur Ignace s'est dit, on se réveille le matin, et puis c'est ça qui s'est fait ici. On se réveille un bon matin, on prend une décision. On trouve, qu'est-ce qu'on fait? Il a dit qu'on tâtonne, et Franck a dit qu'on tâtonnait. Mais je combine les deux, je dis non, ils marchent par essai et erreur. Ils ont une idée en tête, et ils ont une batterie d'actions à mettre en œuvre, et ils prennent une action, et après, si cette action ne marche pas, ils
reviennent
et implantent. C'est comme ça. Donc, oui. On marche par essai erreur.
Mais il y a un auditeur qui a évoqué de ces dialogues pour dire que voilà, finalement, on a tous ces problèmes.
Oui.
Pourquoi ne pas aller au dialogue et aborder toutes ces questions?
Je crois que c'est le professeur Ignace. Quand il parle des dialogues, ils sont des matières, par exemple, ces matières-là.
Le marché électoral,
répartition
des sièges.
Non, ce n'est pas, le dialogue qui doit déterminer si on doit avoir une ville. Non. Oui. C'est un problème du gouvernement, c'est un problème de gestion, c'est un problème d'aller voir les gens à proximité. Mais les dialogues, nous avons les députés provinciaux. Les députés provinciaux viennent d'où? Ils sont chacun dans son territoire. Les députés provinciaux de Kinshasa, ici vous avez parlé de Malouéka, est-ce que vous les entendez à Malouéka? Les érosions qu'il y a à Kinshasa, est-ce qu'on a fait un effort pour que l'Assemblée provinciale de Kinshasa s'intéresse réellement aux problèmes de Kinshasa? Est-ce qu'on a fait un effort pour que la ville de Kinshasa s'intéresse aux problèmes de Kinshasa? Vous voyez ici, vous voyez la Gombe. La Gombe, c'est le gouvernement central qui le fait. Je ne sais pas à quel titre et comment, c'est le gouvernement central. Mais vous allez à Maluka, vous allez à Kimbaseke, vous avez des bidonvilles, vous avez des gens qui souffrent aujourd'hui. Les érosions des Kinshasa. Même le centre-ville ici, c'est crasseux. C'est certains endroits, vous voyez, juste à côté de l'hôtel des villes. Est-ce qu'on le fait? Pourquoi on ne le fait pas? Donc les gens, en tout cas, je suis totalement d'accord avec le
président. Les candidats députés provinciaux ont la matière pour
citer leur projet. Mais c'est ça, pourquoi on fait ça? On a besoin de dire aux gens, vous avez 23 000 postes où vous pouvez être élus. Alors, si vous les élus, comme il n'y a pas d'emploi, et qu'est-ce que les gens font? C'est comme ça que les gens encouragent ce genre de choses. Ils disent, nous allons avoir 26 gouverneurs, 26 vice-gouverneurs, nous allons avoir 23 000 élus locaux, nous allons avoir 2 000...
C'est un personnel politique de plus,
c'est pour le payer. Non, il faut le payer. Il y a 300, pour les élections locales, il faudra payer 300 millions de dollars par an. Où est-ce que le gouvernement va trouver cet argent? Avec un budget réel, effectif, de 5 milliards de dollars, où est-ce que vous allez trouver l'argent? Vous créez des situations. J'ai discuté avec certains gouverneurs et bourgmestres de la ville de Kinshasa. Ils ont dit qu'ils ont des conseillers qui sont là. Ils ne sont pas payés. Il y a des communes ici, depuis 7 ans ou plus qu'elles sont là, avec le gouvernement, ils n'ont reçu la rétrocession que deux fois. Alors maintenant, demain, vous aurez des conseillers municipaux élus du peuple. Et s'ils ne sont pas payés, quelle situation ça va engendrer? Donc, je crois que c'est la politique du chaos. On cherche vraiment à ce qu'il y ait un chaos ici.
Mais il y a toujours moyen de trouver dans l'apport un compromis entre tous ces points de vue. Mais on va quand même écouter les deux. Je ne sais pas si vous avez d'autres éléments.
Non, mais ce que je veux dire ici, c'est la stratégie de la diversion qu'on a en train de mener.
Bon, alors on écoute d'abord Pierre qui est avec nous, et puis Victor Mbazangongo. Pierre, vous êtes avec nous, bonjour.
Oui, bonjour Pierre. Merci de m'accorder la parole et je profite de l'occasion pour saluer mon ami Martin Fayoul, l'honorable Martin Fayoul. Je voudrais dire ceci. Je crois que vous avez bien posé le problème au moment où vous avez lancé le débat. Mm-hmm. Il s'agit de ces
décrets
qui ont été momentanément suspendus ou je ne sais pas rapportés. Mais nous sommes dans quel pays? Je ne peux pas comprendre des choses comme ça. Sur le plan du droit, on a démontré qu'il n'était pas possible de prendre une telle décision. Il n'y a que... nous sommes dans le principe en droit de l'acte contraire, qui peut annuler ou alors un acte supérieur. Auquel il n'y a pas été le cas. Alors, quand vous prenez une décision, visiblement, qui viole les lois de la République, le citoyen n'est pas obligé de respecter une telle décision. Le citoyen doit se poser, est-ce qu'on on s'y est préparé? Ça, c'est un. Deux, si ma mémoire est bonne, les décrets pris par le Premier ministre Mojito, c'est bien avant le processus électoral de 2011. Il y a des villes nouvellement créées qui ont été érigées en circonscription électorale. Donc nous devons avoir, au niveau de l'Assemblée nationale, des députés qui ont comme base les nouvelles villes créées par le décret de M. Mojito. Est-ce que ces gens-là peuvent, comme ça, se réveiller du jour au lendemain sans leur base électorale, sans leur circonscription électorale? Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on s'est posé cette question-là? Et troisièmement, le problème du processus, la décentralisation est un processus. On ne peut pas se réveiller du jour au lendemain, comme on l'a dit, et Martin n'a pas arrêté de le rappeler tout au long de l'émission. On ne peut pas se réveiller du jour au lendemain et dire non, on a dû découper, décentralisons et tout ça. Non, le processus de décentralisation s'effectue exactement comme les processus de recherche en laboratoire. Vous cherchez d'abord des cobayes, vous testez, vous vérifiez, vous contre-vérifiez et on valide les résultats et vous allez de l'avant.
Oui, mais monsieur Pierre, il ne faut pas non plus oublier que dans la recherche scientifique, il y a aussi ces erreurs.
Mais c'est pour cela, justement, qu'il y a des vérifications et contre-vérifications et la validation.
Merci beaucoup, parce qu'on a pris assez de temps. On va prendre Pierre, en tout cas, c'est l'équipe Parti Rémise. C'est intéressant, votre contribution. On va prendre Victor, à qui on va accorder une minute avant de conclure avec notre invité. Victor, vous êtes en Bazangongo en une minute. Bonjour.
Bonjour. Oui, voilà, j'ai une minute, merci beaucoup. Je pense qu'il y a un problème très sérieux au sein de notre gouvernement et des hommes qui nous dirigent, les hommes politiques. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucun respect pour la loi, aucun respect pour la Constitution et malheureusement aucun respect pour la population. Parce que ce qui est en train de se passer, c'est sincèrement une désolation par rapport à ce qui devait être l'homme politique, à ce qui devait être un intellectuel. Gouverner ce pouvoir, comme on dit, on n'a rien fait, rien fait. Bon, maintenant, s'il fallait le faire ainsi, moi je pense qu'on devait normalement, au niveau du gouvernement et au niveau de la CENI, prendre des dispositions bien avant. Donc,
voilà, Victor, nous vous remercions, hein, Victor. C'est vrai, on est le temps de talonne, hein. On va conclure avec notre invité, Martin Fayoulou. En une phrase, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à cela? Une décision qui pêche dans la forme et dans le fond. C'est vrai, il faut faire quoi maintenant? Il faut carrément abroger, il faut annuler.
Mais je fais conclure par Pierre et Victor. Pierre dit le citoyen n'est pas tenu de respecter une telle décision. Et Victor dit il n'y a aucun respect pour la population, il faut respecter la population. Et nous sommes ici dans une stratégie de diversion à l'encours aux ISA et on vous dit voilà, on va faire ceci, parce qu'on crie dialogue, dialogue, et, on va faire, et puis il continue à passer. Mais le peuple, et je le répète, que nous avons l'article 64 congolais, il faut que tu te réveilles et tu ne peux pas accepter n'importe quoi. Tu n'es pas au Gondwana, tu es en RDC, le pays de nos ancêtres, que Dieu a donné à nos ancêtres et nous devons tous protéger ces pays. Les gens qui n'ont pas intérêt, nous avons intérêt pour notre pays. Merci.
Martin, honorable Martin Fayoulou, président de l'ECID, engagement pour la citoyenneté et le développement et coordonnateur des FAC, Force Acquise de Changement. Merci d'avoir été des nôtres. À très bientôt.
C'est moi qui vous remercie.
Allô? 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 Il ne répond pas?
C'est par ici que nous mettons un terme à cette émission. Nous disons merci à Paul Badianyam qui a assuré la mise en onde de ce programme réalisé par Julie César Bongonda et Pierrot et la Magie. Un programme qui vous a été coordonné et présenté par J.R. Mugembo sous la supervision de Léonard Moulamba. On prend rendez-vous avec vous demain.